Bienvenue dans le podcast « Où va l'argent ?» de Transparency International France. Je suis Sarah Brindeuf.
Et moi, Charlotte Palmieri.
Aujourd'hui, nous allons explorer l'essor des enquêtes journalistiques menées en consortium, souvent en coopération avec des ONG, pour révéler et dénoncer des failles systémiques, y compris lorsqu'elles touchent aux violations des droits humains et environnementaux. Nous avons le plaisir d'accueillir Karine Pfenniger. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez travaillé sur plusieurs enquêtes collaboratives internationales pour différents médias tels que Gotham City, Mediapart, Le Nouvel Obs ou encore Forbidden Stories. Vous êtes aujourd'hui responsable magazine et publication au sein de l'ONG suisse Public Eye. C'est une ONG qui lutte par un travail d'enquête et de plaidoyer pour le respect des droits humains et des obligations de vigilance par les entreprises. Vous avez donc été amenée, tout au long de votre carrière, à travailler sur de nombreuses affaires de délinquance financière. Karine, nous sommes ravis de vous recevoir, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Alors nous avons décidé de nommer ce podcast « Où va l'argent ?» et une première question que nous aimons bien poser à nos interlocuteurs est « Qu'est-ce que ce titre vous évoque ?»
C'est une question que j'aime beaucoup me poser dans mon travail, quand il s'agit de comprendre ce qui se joue. Par exemple, si on est face à une entreprise dont on décortique les rapports annuels, et la structure d'entreprise et qu'on essaye de comprendre, par exemple, s'il y a optimisation fiscale ou si on est face à des transactions bancaires et on essaye de voir s'il y a eu potentiellement des détournements de fonds ou du blanchiment. Et donc, la question « Où va l'argent ?» et la complémentaire « D'où vient l'argent ?» c'est des questions que j'aime bien me poser pour un peu guider le travail et se concentrer sur les flux financiers pour essayer un peu de recréer la chaîne de transactions. Et donc, bah, logiquement, ça permet d'essayer de comprendre qui gagne et qui perd dans ces transactions. Et du coup, de réfléchir à la question des contreparties. Est-ce qu'il y a eu une contrepartie, par exemple, pour la personne qui dépense de l'argent? Est-ce qu'elle est occulte? Est-ce que ça fait partie d'une activité économique normale? Et puis, c'est une question qui permet de formuler des hypothèses sur les motifs qui ont poussé les gens à déplacer ces fonds. Donc, finalement, je trouve qu'on en revient toujours à la question « follow the money ». Enfin, c'est toujours une bonne question, en tout cas pour moi, je trouve. Même s'il y a des cas d'enquête financière où c'est moins pertinent, par exemple, les systèmes de blanchiment en réseau à Ouala ou ce genre de choses. Personnellement, je la trouve toujours très utile et pertinente pour le travail. Et la deuxième chose que « où va l'argent ?» m'évoque, et c'est lié à ça, c'est la question du gain. Qui gagne avec ce schéma? Qui gagne avec ce budget? Qui gagne avec cette transaction? Et c'est une question utile à se poser si on travaille, par exemple, sur l'argent public. Je pense aux subventions de l'État aux multinationales ou aux délégations de services publics, aux appels d'offres publics. Et aussi si on travaille sur les chaînes de valeur des multinationales. Par exemple, si on essaye de savoir dans un paquet de café qu'on achète au supermarché, quelle est la part qui revient aux cueilleurs et aux cueilleuses de café? Bah, du coup, c'est une question utile pour guider le travail. Donc voilà, je pense que c'est une excellente question à se poser, autant pour les journalistes, les enquêteurs, enquêtrices en ONG, et puis aussi pour les citoyens et les contribuables.
Alors si on se concentre sur le rôle du journaliste d'investigation, notamment lorsqu'on enquête sur le blanchiment dans le secteur de l'immobilier, on ne peut pas ignorer la question des enquêtes journalistiques dites collaboratives. Et au cours de votre carrière, vous avez mené de nombreuses enquêtes de ce type. Alors de quoi s'agit-il exactement? Et pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez avec d'autres acteurs pour récolter des informations sur ces affaires de délinquance financière?
Ouais, je dirais que l'enquête collaborative, c'est quand il y a plusieurs journalistes de différents médias, des fois de différents pays, qui s'associent pour enquêter sur un sujet défini et qui font une publication à peu près simultanée. Exemple classique, les Panama Papers. C'est une approche qui va à l'encontre du cliché du loup solitaire, le journaliste ou la journaliste qui travaillerait seul dans son coin, qui garderait ses scoops pour soi, sans les partager avec des confrères. Et c'est une approche qui a beaucoup d'avantages. On peut partager ses connaissances, ses champs d'expertise, les ressources, parce qu'il en faut souvent beaucoup. Et aussi mutualiser les risques, notamment juridiques, en cas de poursuite post-publication. Et c'est une approche qui se prête bien à des sujets transnationaux d'intérêt public, dont les affaires de délinquance financière. Pour toutes ces raisons, parce qu'il faut des expertises pointues et variées, il faut souvent du temps, des fois ça implique des risques. Et aussi parce que ça permet de traiter des sujets à leur juste échelle, je trouve, donc au niveau transnational. Et personnellement, je trouve que c'est des approches extrêmement intéressantes, autant journalistiquement que humainement. Donc, sur des affaires spécifiquement de délinquance financière, comme on travaille, assez organiquement, typiquement, on répartit le travail en fonction des expertises. Donc concrètement, par exemple, mettons qu'on ait dans le sujet une société en France qui apparaît. Si dans le groupe, il y a un ou une journaliste française qui connaît un peu ces thématiques, ce sera du coup naturel que cette personne aille faire le boulot sur cette société, parce que peut-être qu'il ou elle saura comment on obtient des documents officiels en source ouverte en France, comment les bases de données françaises fonctionnent, ce qu'on peut obtenir, ce qu'on peut pas obtenir, comment faire des demandes d'accès à des documents officiels, etc. Donc une sorte de répartition des tâches, et puis bien sûr cette personne aura sans doute des sources locales pertinentes pour l'enquête. Donc on fait un peu ça typiquement par pays, donc par exemple la France, après si un vol est bulgare, la même chose en Bulgarie, etc. etc. Et donc je dirais que c'est un peu comme ça que souvent ça se passe, de ce que j'ai vu. Et la clé là-dedans, c'est d'avoir confiance pour partager des infos parfois exclusives, c'est pas forcément intuitif de les partager des confrères, surtout dans d'autres médias. Et donc typiquement, on fait des NDA ou des accords de confidentialité, notamment dans les enquêtes en consortium pilotées par des organisations journalistiques de type Forbidden Stories, pour un peu baliser les termes, la collaboration. Et l'autre clé dans tout ça, c'est, je trouve, l'intérêt mutuel. Que de l'intérêt de partager des informations, parce que souvent c'est des sujets qu'en fait on pourrait pas réaliser tout seul. Donc il y a notamment les affaires de délinquance financière transnationale, donc il y a vrai intérêt à partager.
Alors on le sait, dans les affaires de corruption, un des canaux privilégiés du blanchiment est le secteur immobilier, sur lequel vous avez beaucoup écrit. Dans un article que vous avez copublié dans le Nouvel Obs en 2022, donc juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, vous révéliez que plusieurs oligarques russes auraient investi à hauteur de 350 millions d'euros dans des biens immobiliers en France. Comment est-ce que vous aviez pu documenter l'existence de ces biens à l'époque ?
Ouais, c'est une enquête qui a été pilotée par les journalistes français Emmanuel Freudenthal, Yann Guégan et Colin Hamel, que j'ai pu rejoindre et qui a été soutenue par la bourse IG4EU et effectivement publiée dans le Nouvel Obs en mars 2022. Cette soixantaine de biens immobiliers en France qui appartiennent ou appartenaient à une trentaine de riches hommes d'affaires russes, pour cette valeur totale d'au moins 350 millions d'euros, en fait, pour les identifier, on utilisait des données du gouvernement qui sont en source ouverte, donc accessibles au public. Étape par étape, on est parti de listes publiques en tout genre, que ce soit le site Open Sanctions, qui recense un peu les sanctions existantes contre les individus et les personnes, la liste de l'ICIJ of Offshore Leaks, Wikidata, etc., pour faire, pour recenser les oligarques et hommes d'affaires proches du Kremlin. Et en fait, ensuite, on a regardé si ces noms apparaissaient dans le registre du commerce français. Et à cette époque, le bénéficiaire effectif d'une société était une information publique. Donc, ça nous a permis de trouver des sociétés françaises liées à ces oligarques, et en particulier des sociétés civiles immobilières qui, du coup, s'occupent d'acquérir et de gérer des biens immobiliers pour le compte de personnes. Et une fois qu'on avait des sociétés reliées à ces hommes d'affaires riches proches du Kremlin, on a commencé à éplucher tous les actes constitutifs et tous les autres documents officiels qu'on peut trouver publiquement. Donc, c'est des documents qu'on peut acheter sur Infogreffe, mais qu'on peut aussi trouver gratuitement sur des sites qui reprennent les données du registre du commerce. Et en fait, dans ces documents, notamment dans les actes constitutifs, est détaillé l'objet social de l'entreprise. Et du coup, souvent, dans les SCI, on peut savoir quel bien immobilier la société est censée acheter, quelles en sont les données cadastrales, quelle en est l'adresse, parfois pour combien d'argent, qui est censé faire cet achat pour le compte de la SCI, etc. Et donc, ça nous a souvent permis d'avoir des données cadastrales. Et avec ce nom de société, sur la base de ces informations, on a fait des demandes au ce qui s'appelle le service de la publicité foncière, qui sont des administrations locales. N'importe qui en France peut faire ces demandes. Contre un émolument, elles fournissent ensuite la liste des transactions liées à un bien immobilier. Donc on a tout l'historique, sauf erreur, à partir des années 50. Et en fait, une fois qu'on a reçu ces documents, ça permet de confirmer que la SCI de l'oligarque a bien acheté ce bien immobilier en France. Et ça nous donne également le prix de vente. Et enfin, la dernière chose qu'on a fait, c'est que sur la base de ces documents, on a de nouveau demander au service de la publicité foncière les actes de vente. Et donc là, on a le document, une copie du document original qui attestent du prix de vente et qui des fois donnent des informations supplémentaires comme si ça a été payé en cash par exemple. Et qui fournit aussi des informations sur SAIL, le premier document fourni par les services de la publicité foncière, indique aussi, par exemple, qui ont été les notaires impliqués dans ces transactions avec des personnes souvent politiquement exposées. Donc, voilà, on a fait ce travail de fourmi, et comme ça, petit à petit, on a listé cette soixantaine de biens, on a additionné leur prix de vente, et puis du coup, on est arrivé à 350 millions d'euros. On dit au moins parce que c'est le prix de vente à l'époque, des fois, c'est des transactions anciennes. Le prix actuel, si les biens devaient être vendus, est sans doute différent. Voilà. Donc, tout ça, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg, sans doute, parce qu'on sait qu'on n'a pas pu inclure des biens qui seraient détenus par des sociétés écrans ou des prête-noms, notamment. C'est vraiment tous les biens qui étaient directement fléchés aux personnes sur notre liste, ou plutôt aux personnes qu'on avait recensées. Et d'ailleurs, le travail de Transparency révèle des lacunes majeures dans la publication des données liées aux sociétés en France. Donc voilà. Et puis peut-être le dernier truc, on a pu faire ce travail relativement rapidement parce qu'on était déjà en train d'enquêter sur ce sujet plus largement en France, les biens immobiliers en France. Et donc on avait déjà défriché la méthodologie, comment faire. Et on n'aurait pas pu y arriver aussi rapidement si on n'avait pas été plusieurs, plus ou moins à temps plein là-dessus. Même si les données sont publiques, c'est pas forcément tout simple d'arriver à quelque chose qui fait sens de ça.
Pour revenir sur ces 350 millions d'euros investis dans des biens immobiliers qui sont probablement, comme vous l'avez dit, la partie émergée de l'iceberg, nous avons publié, Transparency International, en 2023, une étude qui révèle que 70% des biens immobiliers détenus par des sociétés en France le sont de manière anonyme. En d'autres termes, pour les biens immobiliers détenus via des sociétés civiles immobilières, par exemple, il est impossible de savoir qui est le propriétaire réel qui se cache derrière cette société ou ces sociétés. Alors, vous n'êtes pas surprise par ce chiffre, mais selon vous, comment peut-on l'expliquer ? Et est-ce que vous identifiez des pistes de correction ou de solutions pour combler cette faille immense ?
Ouais, je suis pas surprise, même si je trouve que c'est édifiant, parce qu'on pensait que... Enfin, moi, naïvement, au moment de faire cette enquête, je pensais que le système français tient la route, etc. Mais en fait, il existe des failles majeures, ce que montre l'étude. Et quand même, je voulais juste souligner que les chiffres m'ont abasourdi, quoi, que près d'un tiers... des sociétés n'avaient toujours pas déclaré leurs bénéficiaires effectifs en 2023, alors qu'elles sont tenues de le faire depuis 2017. Et c'est donc 1,53 million de sociétés. Je trouve ça énorme. Ça pose plein de questions. Et puis, comme vous le montrez bien dans l'enquête, ça concerne très clairement les SCI et très clairement les biens immobiliers, parce que 71% de toutes les parcelles sont détenues de manière anonyme et 61% de toutes les sociétés propriétaires n'avaient pas déclaré leurs bénéficiaires effectifs à cette époque. Donc, tout ça dans le contexte où, comme vous le dites, le secteur immobilier est un vecteur avéré de blanchiment. Bref, je trouve ça quand même énorme. Maintenant, sur les causes, je peux essentiellement formuler des hypothèses. Est-ce qu'il y a un manque de suivi des autorités sur la mise en œuvre des règles de divulgation, un manque de poursuites ou de sanctions s'il y a des entités qui ne respectent pas leurs obligations? Théoriquement, une société qui ne déclare pas son bénéficiaire effectif, elle risque une injonction de procéder, des sanctions pénales. Et puis depuis l'année dernière, donc post-publication, si elle ne déclare pas son bénéficiaire effectif, dans les 3 mois qui suivent une mise en demeure, elle risque une radiation d'office du registre du commerce. Mais je suis curieuse vraiment de savoir comment et si cela est appliqué. Voilà, donc ça c'est une des pistes. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la publication des comptes annuels, qui est une obligation pour certaines sociétés comme les SA ou les SARL. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des sociétés qui doivent publier ces informations et pour lesquelles on ne trouve pas tous les rapports annuels dans le registre du commerce. Dans les faits, si une société qui doit publier ses comptes annuels ne le fait pas, le dirigeant s'expose à une amende de 1 500 euros, 3 000 en cas de récidive. Et ça me semble être des montants dérisoires pour une grande entreprise. Donc voilà, je me demande si et comment ces sanctions sont appliquées, ce qui peut être une piste. Et après, sur les raisons éventuelles des lacunes à grande échelle, il y a aussi une possibilité que vous soulignez qui me semble potentiellement clé, qui est que les entreprises étrangères qui acquièrent des biens immobiliers en France ne sont pas soumises aux mêmes règles de divulgation de la propriété effective que les entreprises françaises, qui me semble être une faille majeure. Et tout comme le fait aussi que vous soulignez dans votre rapport que certaines sociétés possèdent des biens immobiliers sans utiliser leur numéro Siren, là aussi on se pose des questions sur les contrôles, enfin, comment c'est possible ? Je serais curieuse de le savoir. Donc voilà, notre enquête elle révèle sans doute la pointe de l'iceberg, et je serais curieuse de savoir si les règles étaient effectivement appliquées, quelle information d'intérêt public on pourrait amener.
Alors, toujours sur l'immobilier, dans un indice qui compare les pays selon l'opacité dans leur secteur immobilier qui a été publié cette année par Transparency International, la France se classe en 3e position sur 24, donc soit parmi les pays les plus transparents. C'est un classement qui est satisfaisant, mais encore imparfait. Comment est-ce qu'on peut faire mieux en France, mais aussi ailleurs ?
Je tiens à dire que cet indice est le travail de cartographie qu'a fait Transparency sur la publication des données foncières dans ses 24 juridictions est pionnier, vraiment. Et comme vous le dites, la France s'en sort plutôt bien, donc seule l'Afrique du Sud et Singapour font mieux. Mais voilà, il y a des manquements. Ce que je trouve intéressant, c'est la question des promoteurs immobiliers qui ne sont pas couverts par les obligations anti-blanchiment, ce que vous relevez. Je ne suis pas législateur, mais ça me semble étonnant qu'une profession centrale dans un secteur central du blanchiment n'ait pas d'obligation de cet ordre. L'autre point que vous relevez, et c'est ce qu'on disait plus tôt, c'est que les sociétés étrangères peuvent acquérir des biens immobiliers en France sans s'inscrire en France et donc sans se conformer aux divulgations de la propriété. Et voilà, à titre personnel, je ne comprends pas ce deux poids, deux mesures. Surtout si, quand on sait que les biens immobiliers français semblent attractifs pour les personnes politiquement exposées, comme les nombreux dossiers de biens mal acquis le montrent. Voilà, donc ça c'est un peu deux zones où il y aurait peut-être, je ne suis pas législateur encore une fois, mais peut-être des réformes pour les personnes qui s'occupent des réformes à envisager. Et enfin, je peux parler de mon expérience en tant que journaliste. Comme vous le savez sans doute très bien, le registre des bénéficiaires effectifs n'est plus ouvert au grand public depuis un arrêt de la Cour de justice de l'UE de 2022. Depuis juillet 2024, il est donc limité à certaines personnes qui justifient d'un intérêt légitime, dont les journalistes qui enquêtent sur la délinquance financière. Et j'ai pu constater que même si la France semble faire un effort pour accorder l'accès aux journalistes, ceux qui en font la demande du moins, il y a eu certains confrères qui ont été refusés au motif qu'ils n'avaient pas de carte de presse française. D'autres confrères qui ne travaillent pas forcément tous les jours sur ces sujets, mais qui tout d'un coup avaient besoin de ces infos pour une enquête et qui ont redécouvert cette limitation, à qui il a fallu expliquer comment ça marchait, comment s'inscrire. Et en fait, le temps de faire la demande et d'avoir la réponse, ça fait perdre du temps qu'on n'a pas toujours en rédaction. Donc voilà, l'accès, cette question de l'accès au registre des bénéficiaires effectifs, pour moi, elle est capitale pour faire avancer les enquêtes. C'est ce qui permet de relier des individus, des personnes physiques, à des schémas ou des transactions problématiques. C'est vraiment le maillon clé. Et donc, cette règle relativement nouvelle, je trouve que c'est un vrai frein à notre travail d'enquête sur des sujets d'intérêt public. Et j'espère que l'UE reviendra un jour à un accès public du RBE, ou Registre des bénéficiaires effectifs. Voilà un peu pour deux, trois choses en France qui peuvent être réfléchies. Dans d'autres pays, ça va sans dire que dans d'autres pays, il y a vraiment énormément à faire, en tout cas du point de vue des journalistes. Je pense par exemple à la Suisse et à la Belgique. Je pense franchement qu'on n'aurait pas pu faire cette enquête sur les biens immobiliers des oligarques russes en Suisse ou en Belgique. On n'aurait pas pu la faire, mais pour une question d'accès aux documents qui sont du coup accessibles en France. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en Suisse, les informations foncières, ça relève de la compétence des cantons. Donc déjà, il faut défricher les systèmes de tous les cantons. En Belgique, il y a des limitations, si je ne dis pas d'erreur. Il faut habiter en Belgique pour demander des informations. Les journalistes ne sont pas censés demander des informations foncières. C'est notamment réservé aux personnes qui veulent acquérir un bien ou aux personnes qui ont des problèmes de voisinage. Enfin bref, c'est pas du tout pensé pour des enquêtes. Donc voilà, c'est juste un aperçu. J'ai pas poussé ce travail plus loin dans ces pays, mais je sais déjà que je pense, enfin, qu'il y a encore plus de barrières qu'en France et encore plus de choses à faire pour que les journalistes puissent enquêter sur des sujets d'intérêt public qui touchent à l'immobilier.
Je rebondis juste sur ça parce que dans l'Oreo Index, on pointe l'absence d'assujettissement des promoteurs immobiliers et des marchands de biens à la LCBFT dans plusieurs pays dans le monde, dont la France. Il se trouve que ça vient d'évoluer en France avec la loi narcotrafic 2025. Donc ça, c'est un beau succès. On espère que ça sera répété aussi à l'international. Et autre point sur l'absence de déclaration des bénéficiaires effectifs des sociétés étrangères qui achètent des biens immobiliers en France, ça sera amené à évoluer aussi avec la 6e directive anti-blanchiment.
Merci pour ces ajouts.
Karine, revenons sur votre travail au sein de Public Eye. Donc, ça fait quelques mois que vous avez rejoint cette ONG suisse. Vous nous avez déjà expliqué à quel point les méthodes de travail peuvent différer en Suisse et en France du fait notamment de l'accès aux documents en source ouverte. Mais pour revenir sur Public Eye, qui a une structure particulière qui permet de faire travailler des journalistes avec des responsables de campagne ou de plaidoyer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail d'enquête au sein de cette ONG suisse ?
Alors Public Eye est effectivement une ONG suisse qui a été fondée dans les années 60, qui s'appelait à l'époque la Déclaration de Berne, et qui se concentre sur les agissements des multinationales suisses à l'étranger, ce qui amène l'ONG à se pencher sur des thématiques comme les violations des droits humains, du droit du travail, la corruption, l'évasion fiscale, les atteintes à l'environnement, etc., dans des secteurs clés de l'économie en Suisse, à savoir le domaine pharma, les pesticides, l'agroalimentaire, les matières premières, etc. Et donc effectivement, l'ONG fait à la fois un travail d'enquête avec des journalistes au sein de l'ONG qui publient des articles fouillés, rigoureux, et un travail de plaidoyer pour faire changer les choses depuis la Suisse. Au sein de Public Eye, comment ça fonctionne, c'est que le travail d'enquête des journalistes va aller nourrir le travail de plaidoyer et de sensibilisation avec des faits concrets et documentés. Donc c'est comme ça que la collaboration se fait essentiellement, c'est que les enquêtes qui sont produites et publiées viennent ensuite nourrir la réflexion, le travail de plaidoyer, etc. On travaille aussi régulièrement avec des ONG et des médias autres. Par exemple, mon collègue Laurent Gabrel, avec la cellule Unearth de Greenpeace Royaume-Uni, on fait toute une série d'enquêtes sur les exportations de pesticides interdits de l'UE, avec notamment une enquête en France qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, en 2022, où il relevait des failles dans la nouvelle législation qui a pu amener à des corrections et donc des avancées. Donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'il nous arrive aussi de collaborer avec des ONG et des médias externes. Voilà un peu comment on travaille.
Pour revenir sur votre travail plus largement en tant que journaliste ou aussi au sein de Public Eye, est-ce que vous pourriez nous parler d'une affaire de corruption ou blanchiment qui vous a particulièrement marqué et qui a impliqué une entreprise ?
Je pense à plusieurs affaires que Public Eye a traitées de corruption de multinationales actives dans les matières premières. Il y a eu Gunvor au Congo-Brazza, Glencore en RDC, Trafigura en Angola. Ce que je veux dire avec ces enquêtes, c'est qu'elles ont vraiment contribué à faire avancer des enquêtes pénales en Suisse. Et on a observé ces dernières années des efforts par la Suisse pour poursuivre ces faits de corruption d'agents publics étrangers. Et en fait, ça a aussi amené mes collègues, on va dire de la jambe plaidoyer, mes collègues à réfléchir à la question des créances compensatrices en Suisse. En gros, ce qui se passe, c'est qu'en cas de condamnation par corruption en Suisse, les entreprises doivent verser de l'argent à titre de compensation pour les gains illicites qu'elles ont réalisés en lien avec des actes de corruption. Mais en fait, cet argent finit dans les caisses de la Confédération, au lieu de revenir aux personnes qui ont été lésées par ces actes de corruption. On chiffre en Suisse à plus de 900 millions de francs, donc c'est une somme non négligeable, et notamment de ces affaires dont je vous parlais, Gunvor au Congo-Brazza, sauf erreur, en tout cas Glencore en RDC et Trafigura en Angola. Donc Public Eye demande que cette injustice cesse, pour ça on a lancé une pétition l'automne dernier. Mes collègues juristes ont réfléchi à des propositions de réformes législatives concrètes pour rendre ça possible. Et là où je veux en venir, c'est que ce travail de plaidoyer a été nourri par les enquêtes menées par Public Eye. À l'époque, Public Eye était une des rares structures à enquêter sur la corruption dans le domaine des matières premières en Suisse. Et donc, le travail de mes collègues, je pense, était assez pionnier en la matière et a pu aboutir à des vrais changements. Là où je veux en venir avec tout ça, c'est que les enquêtes sur les négociants de matières premières et sur des faits de corruption, Glencore en RDC, Trafigura en Angola, etc., ont contribué à faire avancer des enquêtes pénales et ont ensuite amené mes collègues à poser une réflexion sur cette question de restitution des créances compensatrices. Et aujourd'hui, on en est à demander à ce que cette injustice cesse et que l'argent de la corruption revienne aux personnes lésées.
Voilà. Merci beaucoup Karine, on arrive à la fin de cet entretien et nous aimons bien terminer par une question un petit peu plus personnelle. Pourquoi avoir choisi ce métier de journaliste d'investigation ou comment ce métier vous a-t-il peut-être choisi? Et est-ce que vous pourriez nous partager un moment fort de votre carrière, quel qu'il soit?
J'ai choisi ce métier parce que je le trouve passionnant et parce que je trouve qu'il a un sens. Je suis une idéaliste assumée, je vous le dis franchement. Et pour être vraiment transparente avec vous, en fait, j'ai découvert le journalisme d'investigation avec le magazine de Public Eye et Cache Investigation quand j'étais encore étudiante en Suède. Et ça a été un choc. Je me suis dit, c'est le meilleur métier du monde, sans doute totalement inaccessible, mais c'est quand même le meilleur métier du monde. Et quelques années plus tard, je me suis retrouvée à travailler à Cache Investigation, puis à Public Eye. Et vraiment, je ne mesure pas la chance que j'ai, vraiment. Donc voilà comment je suis arrivée à ça. Et un moment fort, je dirais, jusqu'à présent, c'est... Alors, j'ai tout de suite pensé au premier article avec le coup de fil de l'avocat en colère et les premières menaces juridiques par un avocat zurichois. Mais je vais plutôt vous parler d'une enquête qu'on avait fait à Forbidden Stories, où on a poursuivi le travail du journaliste Dom Phillips et de l'expert en population autochtone Bruno Pereira, qui était assassiné en 2022 en Amazonie brésilienne. Et en fait, on avait un volet de l'enquête qui se concentrait sur l'accaparement des terres dans l'état du Pará, qui est un état très touché par les incendies criminels utilisés pour déforester à grande échelle et accaparer des terres. Et en fait, Dom Phillips avait enquêté sur ce sujet avec un journaliste d'investigation brésilien qui s'appelle Daniel Camargos, qui est incroyable. Et à l'époque, je lui ai proposé de continuer ce travail avec nous. Il a accepté. Et pour le coup, on a vraiment suivi leurs traces à l'époque. Ils étaient partis d'une histoire précise avec un incendie qui impliquait une femme, etc. Ils avaient repéré un propriétaire terrien. Et en fait, on a pu montrer qu'il y avait sans doute un système d'accaparement de terres à grande échelle lié à ce propriétaire foncier et que son beau-fils avait enregistré des dizaines de parcelles situées dans des zones publiques et protégées dans le cadastre environnemental brésilien. Et qu'en fait, le cas qu'ils avaient rapporté faisait sans doute partie d'un système. Et c'était super touchant, vraiment très touchant de suivre leurs traces, de travailler avec Daniel sur ce sujet, de parler aux gens qui avaient parlé à Dom Phillips, de voir Daniel rappeler ce propriétaire terrien, d'entendre toutes ces anecdotes, et ça m'a beaucoup touchée. Et je crois que lui, ça l'a aussi beaucoup touchée, et j'espère qu'on a pu honorer le travail de Dom et Bruno en continuant l'enquête ensemble. Ouais, c'était un des moments forts.
Merci beaucoup Karine, ça nous montre en fait que la corruption ne peut jamais être décorrélée finalement de ses impacts, que ça soit des atteintes environnementales, aux droits humains. Merci beaucoup. C'était Où va l'argent, le podcast de Transparency International France. Pour aller plus loin, retrouvez nos actualités et l'ensemble des épisodes sur notre site internet transparency-france.org et sur nos réseaux sociaux.